Notre conscience ressemblait à la sensitive, si la main du péché s'en approchait, aussitôt elle se reployait sur elle-même. Notre âme était comme couverte de meurtrissures, en sorte que le plus léger attouchement lui arrachait des cris. Offenser Dieu nous paraissait être le malheur suprême, si quelqu'un prononçait une imprécation en notre présence, nous tremblions d'effroi, si nous voyions un homme violer le sabbat, nous étions éperdus. La moindre tentation nous indignait, il nous semblait entendre la voix du démon lui-même, et plein d'une sainte colère, nous nous écrions arrière, « De moi, Satan !» Le péché, sous toutes ses formes, nous faisait horreur, nous le fuyions comme un serpent, nous le craignions comme du poison. Mais où est-elle maintenant cette conscience, si sensible et si tendre? Qu'est devenue sa délicatesse d'autrefois? Nous n'avons pas, il est vrai, abandonné les sentiers du Seigneur, ni oublié sa loi, nous n'avons point extérieurement déshonoré notre sainte profession, et Dieu seul connaît nos iniquités, toutefois, nous l'avouons avec confusion, notre conscience n'est plus ce qu'elle a été. Hier encore elle tenait contre le péché, aujourd'hui elle garde le silence. Ô conscience, conscience! Nous t'avons abreuvé de soporifique et maintenant tu dors, tandis que tu devrais nous avertir? Sentinelle du Seigneur, ta voix pénétrante savait naguère se faire entendre jusqu'au plus profond de notre être, mais maintenant tu es assoupi et nous succombons à la tentation. Jusqu'à présent, nous n'avons péché que dans de petites choses, mais de même que le balancement d'un brin d'herbe indique de quel côté souffle le vent, de même ces petites infidélités ne prouvent que trop dans quelle funeste voie notre âme est engagée. Oh ! Qui nous délivrera de cette conscience si épaisse, si dure, si calleuse, de cette conscience que les flèches de la loi ne peuvent plus transpercer ? Oh ! Qui nous fera être comme nous étions autrefois ? Enfin, mes bien-aimés, il est peut-être quelques-uns d'entre nous qui gémissent, et non sans raison, parce qu'ils n'ont pas autant de zèle pour la gloire de Dieu et pour le salut des âmes qu'ils en avaient jadis. Il y a quelque temps, si nous voyons une âme chemineur vers la perdition, nos yeux se remplissaient de larmes. Si nous voyons un de nos semblables prêt à commettre un péché, nous nous élancions vers lui, le suppliant de renoncer à son coupable dessein. Jamais nous ne sortions sans donner à l'un quelque traité religieux, à l'autre quelques bons avis, il nous semblait que nous devions toujours parler du Seigneur Jésus. Si une occasion de faire du bien se présentait, nous étions toujours les premiers à la saisir. Notre vœu le plus cher était de sauver quelques âmes, et si profond, si ardent était notre amour pour les pécheurs, que volontiers nous eussions consenti à être moqués, hués et abreuvés d'outrages, persécutés par le monde entier, exposés même à la mort cause de Christ, si à ce prix nous eussions pu arracher un seul de nos frères à la perdition éternelle. Notre âme brûlait d'un désir intense d'amener des âmes à Christ, et nous estimions que c'était là le seul but en vue duquel il valait la peine de vivre. Mais, hélas, quel souffle glacial est venu flétrir ce généreux élan? Aujourd'hui, les âmes peuvent être damnées, et nous ne pleurons point. Les pécheurs peuvent être précipités dans les temps ardents de feu et de soufre, et nous demeurons impassibles. Des milliers de créatures immortelles peuvent être moissonnées chaque jour et tomber dans l'abîme du tourment, et cela ne nous touche point. Nous exhortons bien encore notre prochain à fuir la colère à venir, mais nos yeux restent secs. Nous prions pour lui, mais sans que nos cœurs prennent part à nos prières. Nous lui parlons de son danger, mais sans avoir l'air de prendre ce danger au sérieux. Nous passons à côté des repères du vice et de l'infamie. Sans doute nous voudrions que ceux qui y habitent fussent meilleurs, mais c'est là tout. On dirait que la compassion même est éteinte dans nos cœurs. Il fut un temps où l'enfer était pour nous une réalité si vivante qu'il nous semblait sans cesse entendre les hurlements et les lamentations des réprouvés, en sorte que le cri constant de notre âme était celui-ci : « Oh Dieu, aide-moi à sauver mon prochain ». Mais maintenant nous prenons les choses plus froidement, nous avons peu d'amour pour les hommes, peu de zèle pour la gloire de Dieu, peu d'énergie pour son service. Oh ! Mes bien-aimés, si tel est votre état spirituel, si, comme votre indigne pasteur, vous pouvez vous associer dans une certaine mesure à ces tristes aveux, assurément, du fond de votre cœur humilié s'élève en cet instant même cette plainte amère qui nous fera être comme nous étions autrefois. Mais nous nous sommes assez longtemps arrêtés à la maladie spirituelle, si bien décrite par les paroles de notre texte, recherchons-en maintenant la cause et le remède. Le plus souvent ce fâcheux état de choses est le résultat du relâchement dans la prière, et quant au remède, il est facile de comprendre qu'il est l'inverse de la cause. Voyons, mon frère, qui est toujours à te plaindre de l'alanguissement de ta piété, essayons de descendre à la racine du mal. Si tu n'es plus comme tu étais autrefois, ne serait-ce pas tout simplement parce que tu as négligé la prière? Rien ne débilite l'âme, comme le manque de prière? on l'a observé avec raison, un cabinet négligé est le berceau de toutes sortes de mal. On peut dire que le cabinet du chrétien est pour lui la source, soit de beaucoup de bien, soit de beaucoup de mal de bien, s'il le fréquente assidûment, de mal, s'il le néglige. Nul ne peut croître dans la grâce s'il est paresseux à s'approcher de Dieu. Quelque avancé que soit un chrétien, s'il ne priait pas, il aurait bientôt cessé de vivre. L'enfant de Dieu a besoin d'être constamment substanté, si bien nourri qu'il puisse être aujourd'hui, il ne saurait subsister demain si ses provisions ne sont renouvelées. Or, ce renouvellement incessant de grâce, c'est par la prière seule qu'il peut l'obtenir. Quand même une âme posséderait la force spirituelle de 50 chrétiens d'élite, si elle cessait de prier, elle ne pourrait que périr. Mon frère, examine-toi donc à cet égard, et si en regardant en arrière, tu étais contraint à te dire il fut un temps où mes prières étaient plus régulières, plus senties, plus nombreuses qu'aujourd'hui, maintenant elles sont faibles, languissantes, sans sincérité et sans onction. Si, dis-je, ta conscience t'obligeait à faire cet aveu, oh, mon bien-aimé, ne t'étonne plus du malaise de ton âme, ne cherche pas ailleurs l'explication de ce marasme spirituel dont tu te sens atteint. Le relâchement dans la prière, voilà la cause du mal. Mais où en est le remède? Diras-tu? Eh, c'est tout simple, cher homme, prie davantage. Si peu de prières t'ont réduit à l'état d'abaissement dans lequel tu te trouves, beaucoup de prières te relèveront. C'est le manque de prières qui t'a appauvri, c'est l'abondance de prières qui t'enrichira. Où il n'y a point bœuf, la grange est vide, a dit Salomon, Proverbe 14, 41, et même que sans la bourrage l'homme n'aurait point de pain, de même sans la prière l'âme croyant, serait affamé, voulons-nous donc prospérer sous le rapport spirituel? Soyons plus persévérants dans la prière. Oh, mes chers amis, la pierre de la muraille ne pourrait-elle pas crier contre nous et la paroi nous condamner à Habacuc 2, 11? La poussière de notre cabinet ne s'élève-t-elle pas en témoignage devant Dieu, nous accusant de négligence dans nos dévotions particulières? Voilà pourquoi nous ne sommes plus tels que nous étions autrefois. Ce qu'est pour une machine à vapeur le feu, qui entretient son mouvement, la prière alimentée par le Saint-Esprit l'est pour le chrétien. La prière est le véhicule que Dieu a choisi pour faire part de ses grâces à ses enfants, et bien insensé est celui qui néglige. Mes frères, permettez-moi d'insister sur ce point, car il est de la plus haute importance. Si vous reconnaissez qu'en négligeant de vous approcher de Dieu, vous placez votre âme dans la situation la plus périlleuse, votre devoir est tout tracé, vaquez à la prière, avec plus de soin que jamais. Un commerçant gémit parce que son négoce n'est plus aussi florissant qu'autrefois, or, il avait coutume d'envoyer au loin des navires qui lui revenaient chargés d'or, mais depuis longtemps pas un seul n'a mis à la voile a-t-il donc le droit de se plaindre de ce qu'il ne reçoit plus de précieux chargements. De même, lorsqu'un homme prie, il envoie vers le ciel un navire qui lui revient chargé des plus riches trésors, mais si, au lieu de cela, il laisse son navire amarré dans le port, est-il étonnant qu'il s'appauvrisse de jour en jour? Mais le fâcheux état spirituel qui nous occupe peut avoir d'autres causes? Si vous êtes réduit à vous écrier haut, qui me ferait être comme j'étais autrefois? Peut-être est-ce moins votre faute que la faute de vos conducteurs spirituels. Oui, mes chers amis, il n'est pas impossible qu'une âme devienne très gravement malade par suite de la mauvaise nourriture que lui donne son pasteur. Peut-on s'étendre, en effet, à ce qu'il croise dans la grâce ces chrétiens qui ne sont jamais arrosés par les ruisseaux qui réjouissent la cité de notre Dieu? Comment pourraient-ils se fortifier dans le Seigneur Jésus, ceux qui ne sont pas nourris du lait spirituel et pur de la parole? Recherchez donc, avec le plus grand soin, les instructions d'un ministre fidèle. Je connais des chrétiens qui jamais ne sortent de leur lieu de culte sans se lamenter sur le peu d'édification qu'ils y trouvent et pourtant étrange contradiction. Ils y retournent régulièrement dimanche après dimanche. En vérité, je ne sais comment qualifier une telle conduite, et bien loin d'exciter ma compassion ou ma sympathie, j'estime que ces chrétiens méritent qu'on aille à eux avec la verge. Lorsqu'il peut choisir, tout fidèle est tenu d'aller là où il trouve la nourriture qui correspond le mieux aux besoins de son âme. Sans doute, il ne doit pas changer de lieu de culte à la légère, mais si une longue expérience l'a convaincu que la prédication qu'il entend habituellement ne lui tourne pas à profit, au lieu de perdre son temps en vaines doléances, il est de son devoir d'aller ailleurs. Souvent un pasteur infidèle affame, pour ainsi dire, son troupeau, il réduit les brebis du Seigneur à l'état de squelette ambulant, en sorte qu'on peut compter tous leurs os. C'est là, mes frères, une seconde cause qui peut amener les âmes à s'écrier haut, qui nous ferait être comme nous étions autrefois. Mais il y en a une troisième que j'ai hâte de vous signaler, car je crois qu'elle vous concerne plus que la précédente. Votre état de dépérissement spirituel peut provenir non de la qualité de votre nourriture, mais de la quantité insuffisante que vous en prenez. Je m'explique. Voici un homme, un simple ouvrier, je suppose, qui autrefois se rendait régulièrement deux fois chaque dimanche à la maison de Dieu. Le lundi soir, quoique pressé de travail, il trouvait néanmoins le temps d'ôter à la hâte son tablier de cuir et de courir à la réunion de prière. Peut-être y arrivait-il un peu tard, mais il y entendait toujours quelques bonnes paroles. Le jeudi soir encore, il s'efforçait de se rendre dans le sanctuaire pour écouter les exhortations d'un ministre de l'Évangile et afin de regagner les heures passées à ses divers exercices religieux, il se couchait tard, se levait matin et travaillait avec une infatigable ardeur. Mais un jour, voilà que cet homme, pensant lui-même « je suis surchargé d'ouvrage, la vie que je mène est par trop fatigante, je ne puis plus sortir aussi souvent, d'ailleurs, les courses sont si longues », alors il renonce d'abord à telle réunion, puis à telle autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'enfin s'apercevant que la vie de somme décline d'une manière sensible, il s'écrie tout éperdu haut. « Qui me ferait être comme j'étais autrefois ?»« Eh, ne devais-tu pas t'attendre à ce qui t'arrive, mon frère ?» Tu prends moins d'aliments que par le passé, n'est-il pas tout simple que tu t'affaiblisses? Comme le petit enfant, le chrétien a besoin de manger souvent et peu à la fois? Pour ma part, je n'hésite pas à le dire, je crois que lorsqu'une âme abandonne les services religieux de la semaine, si ce n'est pour cause d'empêchement absolu, c'en est fait pour cette âme de la vie religieuse. Tant que l'on n'adore Dieu que le dimanche, disait Whitfield, une piété pratique ne saurait exister. Les services de la semaine sont souvent les meilleurs. Si dans les jours de sabbat Dieu abreuve ses enfants à des ruisseaux de lait, on peut dire que souvent il semble réserver la crème pour les autres jours. Lors donc qu'un chrétien se tient volontairement éloigné des moyens de grâce les plus propres à fortifier son âme, n'est-ce pas à lui-même qu'il doit s'en prendre s'il est réduit à s'écrier haut? Qui me ferait être comme j'étais autrefois? Je ne vous blâme pas, mes bien-aimés, je désire seulement réveiller par mes avertissements les sentiments purs que vous avez de Pierre 3, 2. Je vous parle en toute simplicité comme en toute franchise et j'ai toujours l'intention d'en agir ainsi. Oh, chrétiens, soyez fidèles à votre drapeau. Ne le perdez pas un seul instant de vue et vous remporterez la victoire. Mais si le plus léger indice de défection se manifeste dans vos rangs, n'est-il pas du devoir de votre pasteur de vous avertir, de peur que vous ne veniez à déchoir de votre fermeté? L'idolâtrie telle est une autre cause très ordinaire du déclin de la piété. Il est des chrétiens qui se laissent aller insensiblement à retirer leur cœur à Dieu pour le donner à quelque objet terrestre et qui s'affectionnent aux choses qui sont d'ici-bas plus qu'à celles qui sont d'en haut. Ah! Mes amis, il est difficile d'aimer le monde et d'aimer Christ, je dis plus c'est impossible. Mais d'un autre côté, il est difficile, j'en conviens, de ne pas aimer la créature, il est difficile de ne pas s'attacher à la terre, j'allais presque dire c'est impossible. Et par le fait, c'est impossible pour l'homme laisser à ses propres forces, Dieu seul peut nous apprendre à préférer l'invisible au visible, le spirituel au matériel, Dieu seul peut nous rendre capables de lui donner nos cœurs, sans réserve et sans partage. Mais notez bien ceci, mes frères, toutes les fois que cédant à notre penchant à l'idolâtrie, nous nous ferons un veau d'or et nous nous prosternerons devant lui, tôt ou tard ce veau d'or sera réduit en poudre mêlée, pour ainsi dire, alors que nous boirons, en sorte que nous pourrons dire avec le psalmiste « tu m'as abreuvé » d'absinthe. Jamais chrétien ne s'est façonné une idole sans qu'elle ne se soit écroulée sur lui et ne l'ait grièvement blessée dans sa chute. Jamais l'âme n'a essayé d'étancher sa soif, aussi terne cravassée du monde sans qu'elle n'ait trouvé, au lieu des ondes pures qu'elle cherchait, des reptiles immondes et des eaux croupissantes. Le Seigneur veut que ses enfants vivent de lui et de lui seul, que s'ils cherchent ailleurs leur vie, il prend soin de leur faire boire des eaux de Marah, de verser de l'amertume dans leur âme, afin de les ramener vers le rocher d'où jaillissent les seules eaux vivifiantes. Oh ! Mes bien-aimés, prenons donc garde que nos cœurs soient tout à Christ, entièrement à Christ, uniquement à Christ. Si l'on est ainsi, nous jouirons certainement d'une paix constante, et notre âme ne sera pas contrainte à s'écrier « qui me ferait être comme j'étais autrefois ?» Il semble presque superflu de vous indiquer d'autres causes qui peuvent déterminer la maladie spirituelle dont nous parlons. Toutefois, nous vous en signalerons une dernière, qui est peut-être la plus commune de toutes. Souvent notre piété n'est plus ce qu'elle a été, parce que nous avons nourri au-dedans de nous des sentiments d'orgueil et de propre justice. Ah. Mes amis, sachez-le, aussi longtemps que vous serez sur la terre, vous ne parviendrez point à vous débarrasser complètement de ce vieux levain de propre justice. Le démon nous est représenté par l'Écriture sous l'emblème d'un serpent, parce qu'un serpent se glisse partout, jusque dans le moindre interstice. De même, la propre justice peut être comparée à un serpent, car elle s'insinue jusque dans les moindres de nos actions. Si vous vous efforcez de servir Dieu, excellent chrétien, vous dit le diable, comme tu sers Dieu fidèlement. Tu dépenses ta vie à prêcher l'Évangile, tu es un noble cœur. Si, dans une réunion de prière, le Seigneur vous donne de répandre votre âme devant lui avec liberté et avec quelque ferveur, aussitôt Satan vous caresse avec complaisance, comme tu as bien prié. S'écrie-t-il, certainement les frères t'aimeront, tes progrès dans la grâce sont vraiment remarquables. Si une tentation se présente et que vous soyez rendu capable d'y résister, hein? S'écrie-t-il encore, tu es un vaillant soldat de la croix. Regarde l'ennemi que tu as terrassé, une brillante couronne t'attend au bout de la carrière, tu te comportes en véritable héros. Vous vous confiez implicitement au Seigneur, vous acceptez toutes ses promesses, Satan murmure alors à votre oreille combien ta foi est ferme. Rien ne peut l'ébranler, quelle différence entre toi et tel ou tel de tes frères. Sa foi n'est pas la moitié aussi forte que la tienne. Sur quoi vous allez, tout gonflé d'importance, tant sévèrement votre frère qui est faible, vous lui reprochez de n'être pas de votre taille, et pendant ce temps, le démon continue ses perfides insinuations, ne se lassant pas d'admirer votre force, votre fidélité, votre confiance en Dieu, et vous affirmant que vous n'avez point la moindre parcelle de justice propre. Votre pasteur s'adresse aux pharisiens de son troupeau, mais qu'avez-vous de commun avec les pharisiens? Vous vous croyez complètement inaccessible à l'orgueil, tandis qu'en réalité il n'est pas d'être qui soit plus orgueilleux que vous? Ah! Mes bien-aimés, c'est justement lorsque nous nous estimons humbles que nous sommes enflés d'orgueil, et lorsque nous gémissons le plus sur notre orgueil, c'est alors que nous sommes le plus humbles. En général, notre appréciation de nous-mêmes est le contre-pied de la vérité. Quand le chrétien se croit le plus mauvais, il est souvent le meilleur, et quand il se croit le meilleur, il est souvent le plus mauvais. Si donc vous reconnaissez avec douleur que vous n'êtes plus tel que vous étiez autrefois, examinez si des sentiments de propre justice ne se sont point glissés dans votre âme. Peut-être le flambeau de votre vie spirituelle est-il obscurci par l'orgueil, débarrassez-le donc de cet orgueil, et il brillera comme auparavant. Tu volais trop haut, mon frère, c'est pourquoi il convient que tu sois humilié pour un temps, afin que comme un pécheur coupable et perdu tu ailles de nouveau t'abattre aux pieds de ton Sauveur. Alors, n'en doute pas, tu n'auras plus à t'écrier haut. Qui me ferait être comme j'étais autrefois? Trois et maintenant, je termine par quelques mots d'exhortation. En premier lieu, mes chers amis, je me sens pressé de vous exhorter à prendre courage. L'un de vous se dit peut-être en ce moment même haut. C'en est fait, jamais je ne recouvrerai le bonheur que j'ai perdu, le Seigneur m'a caché la clarté de sa face. J'ai contristé son esprit, et il s'est éloigné, je me suis joué de ses avertissements, et il m'a abandonné, j'ai délaissé les sentiers de la justice, et maintenant je suis comme emprisonné dans une cage de fer dont il m'est impossible de sortir. Il est vrai, pauvre âme, tu ne saurais par toi-même recouvrer la liberté, tes faibles forces ne parviendront jamais à briser ou à limer les barreaux derrière lesquels tu languis. Toutefois, je le répète, prends courage. D'autres sont sortis avant toi de la sombre prison du découragement et du désespoir. Sais-tu ce que tu dois faire, mon bien-aimé? Cria ton bon maître, demande-lui de venir te délivrer, et quand même il semblerait pendant longtemps fermer l'oreille à tes cris de détresse, il t'entendra à la fin, n'en doute pas, en sorte qu'avec Jonas tu pourras bientôt entonner ce chant de délivrance. J'ai crié à l'Éternel à cause de ma détresse, et il m'a exaucé, je me suis écrié du ventre du sépulcre, et tu m'as entendu. Jonas 2, 3, reviens, au pécheur égaré. Entends la voix du Seigneur qui t'appelle, vers lui déjà n'es-tu pas attiré par les cordeaux de son amour fidèle? En second lieu, mes amis, je désire vous exhorter à faire tous vos efforts pour progresser continuellement dans la vie spirituelle. Aux chrétiens, mes frères et mes sœurs en Jésus-Christ, combien en est-il parmi vous dont toute l'ambition consiste à se soustraire à la colère à venir? Combien en est-il qui disent pourvu que je sois sauvé, peu m'importe que ce soit comme au travers du feu, pourvu que l'entrée du ciel ne me soit pas refusée, peu m'importe si je suis à la dernière place? et ceux qui parlent ainsi se conduisent en conséquence, c'est-à-dire qu'ils sont aussi peu chrétiens que possible. De la piété, ils en veulent bien, mais avec modération. Or, qu'est-ce que la modération en matière de piété? C'est un mensonge, c'est une dérision et rien de plus. Une femme demande-t-elle à son mari de l'aimer avec modération? Un père se contente-t-il que son fils soit modérément obéissant? Une probité modérée vous satisferait-elle chez vos serviteurs? Évidemment non. Que parlez-vous donc d'une piété modérée? Être modérément religieux, ce n'est autre chose qu'être irréligieux. Posséder une religion qui ne pénètre pas jusqu'au fond du cœur et qui n'exerce point d'influence sur la vie, c'est, par le fait, n'avoir aucune religion. Ah! Mes chers auditeurs, vous le dirai-je, je tremble souvent à la pensée que parmi vous il en est d'un grand nombre qui n'ont que l'apparence de la piété. Malheur à vous, sépulcre blanchi, qui vous contentez de paraître beau au dehors sans considérer qu'au dedans, vous n'êtes que souillure et corruption. Malheur à vous, pharisiens formalistes, qui nettoyez le dehors de la coupe et du plat et qui vous persuadez avoir assez fait, parce que ni l'Église ni le monde ne peuvent élever contre vous aucune accusation grave. Prenez garde. Prenez garde. Le jour viendra où le juge suprême examinera l'intérieur du plat et de la coupe, et s'il les trouve pleins d'injustice et de méchanceté, il les mettra en pièces et en jettera les débris dans l'abîme du tourment. Pauvre formaliste. Votre prétendue piété ressemble aux ailes de cire d'un personnage de la fable. Elle peut fort bien vous suffire pour voler ici-bas, mais lorsqu'il vous faudra prendre votre essor vers les régions supérieures, le puissant soleil de Jésus la fondra en un instant et vous tomberez pour jamais dans le gouffre de la perdition. Oh ! Soi-disant chrétien, si habilement doré, orné et vernissé, que ferez-vous lorsque, au dernier jour, vous serez reconnu pour être du vil métal ? Quand la paille, le foin et le chaume auront été consumés, que deviendrez-vous ? Je vous le demande, si votre christianisme est de mauvais aloi, s'il n'a pas été frappé au coin du Très-Haut ? Comment pourrez-vous passer par le creuset au grand et illustre jour du Seigneur si vous n'êtes pas de leur fin ? Mais, j'en ai la confiance, il est des âmes dans cet auditoire qui n'ont rien à craindre de cette solennelle épreuve, elles sont nées de Dieu, par conséquent le feu ne saurait les consumer. Toutefois, mes bien-aimés, et ici je ne parle qu'aux véritables croyants, jugez-vous-même si je suis injuste à l'égard des chrétiens de nos jours, en disant qu'en général, nous nous contentons trop aisément de savoir que nous sommes enfants de Dieu et que nous n'aspirons point assez à croître en stature et en force. Nous ressemblons à des nains, à de pauvres enfants rachitiques et souffreteux. Au lieu de marcher courageusement en avant, nous sommes toujours à gémir et à répéter sur tous les tons, qui nous ferait être comme nous étions autrefois. C'est là un symptôme de rachitisme. Si nous voulons faire de grandes choses dans le monde, nous ne devons pas souvent pousser ce cri. Il faut bien plutôt que nous soyons toujours prêts à chanter ma langue, égaie-toi, réjouis-toi, mon cœur, entonne un chant d'amour, Jésus est ton sauveur et que, plein de joie, nous puissions dire avec saint Paul, je sais en qui j'ai cru. Chrétien, voulez-vous être utile? Voulez-vous honorer votre maître? Désirez-vous obtenir dans le ciel une brillante couronne afin d'en faire hommage à votre sauveur? Si l'on est ainsi, et peut-il ne pas en être ainsi? Veillez avec le plus grand soin à la santé de votre âme, ne la laissez pas végéter et languir. Que l'homme intérieur qui est en vous n'est pas simplement le souffle de la vie, mais qu'il se développe de jour en jour et devienne semblable à un arbre planté près des eaux courantes qui porte son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Quoi? Mes bien-aimés, vous vous contenteriez d'une couronne sans ornement quand vous savez que si vous emmenez des âmes à Christ, vous luirez comme des étoiles dans la splendeur de l'étendue, Daniel 12, 3. Vous voudriez vous asseoir au banquet des noces, revêtu, il est vrai, de la robe de Christ, mais sans que Dieu vous ait donné un seul joyau, comme récompense de vos services ici-bas? Ah! Non, j'en suis certain. Vous désirez, au contraire, n'est-il pas vrai? Que l'entrée du royaume éternel vous soit abondamment accordée. Vous voulez jouir de la plénitude des grâces du Seigneur? À l'œuvre donc, mes bien-aimés, à l'œuvre avec ardeur et courage. À celui qui aura fait valoir 5 talents, 5 villes seront données, et que personne ne se contente de posséder un seul talent, mais qu'il le place à intérêt, car on donnera à quiconque a déjà, et il aura encore davantage, mais pour celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il a. Mais, je le sais, pour beaucoup de ceux qui m'écoutent en ce moment, ce que je viens de dire est dépourvu de tout intérêt. Peut-être pensent-ils eux aussi qu'ils nous feraient être comme nous étions autrefois? Mais dans leur bouche, cette plainte a un sens tout autre que dans la bouche du chrétien. Hélas, dit le pêcheur avec amertume, que ne suis-je encore ce que j'étais il y a quelques années. Car alors j'étais plein d'entrain et d'insouciance, je menais joyeuse vie. Nul mieux que moi ne savait vider la coupe des festins, nul ne se laissait emporter plus gaiement par le tourbillon des plaisirs et de la folie. Mais ce que je faisais alors, je ne puis plus le faire. J'ai usé ma santé, j'ai dépensé mon énergie, j'ai perdu ma fortune. Je suis malade de corps et faible d'esprit. Qui me ferait être comme j'étais autrefois? Ah! Pauvre pêcheur, tu as lieu, en effet, de regretter le passé, mais attends seulement quelques mois, et le présent, qui maintenant te semble si sombre, sera à son tour l'objet de tes amers regrets. Et plus tu avanceras dans la vie, sache-le, plus tu souhaiteras de retourner en arrière, car le chemin de l'enfer descend toujours, et le malheureux engagé sur cette pente, fatale, se consume continuellement en un puissant désir de revenir sur ses pas. Oh ! Oui, tu auras encore à t'écrier qui me ferait être comme j'étais autrefois. Tu penseras au jour heureux, où la prière de ta mère te bénissait, où la voix de ton père t'avertissait, où tu allais prendre place, sur les bancs d'une école du dimanche, où, assis sur les genoux de ta mère, tu l'écoutais te parlant du Sauveur. Et ces réminiscences d'un heureux passé seront d'autant plus poignantes que ce passé sera plus éloigné de toi. Ah ! Mes chers auditeurs, il y en a beaucoup parmi vous qui ont bien besoin de rebrousser chemin. Pensez au nombre de vos égarements, voyez jusqu'où vous êtes tombés. Mais qu'ai-je dit ? Non, pêcheur, tu n'as que faire de rebrousser chemin. Au lieu de regarder aux choses qui sont derrière toi, regarde à celles qui sont devant, et au lieu de t'écrier qui me ferait être comme j'étais autrefois, dis en sincérité de cœur, que ne suis-je un nouvel homme, en Jésus-Christ il ne te servirait de rien, crois-le, de recommencer la vie telle que tu serais bientôt aussi mauvais que tu l'es en ce moment. Mais si Dieu daignait faire de toi un homme nouveau, oh ! Alors, pauvre mortel, qui que tu sois, quelque bas que tu sois tombé, tu vivrais véritablement en nouveauté de vie. Un chrétien est tout aussi réellement un nouvel homme que s'il n'avait pas vécu avant sa conversion. La vieille créature est détrônée, il est une nouvelle créature, née de nouveau et entrant dans une nouvelle existence. Pauvre âme, Dieu peut accomplir en toi cette merveilleuse transformation. Dieu, le Saint-Esprit, peut faire de toi un nouvel édifice, et cela sans employer une seule des pierres qui entraient dans la structure de l'ancien. Il peut te donner un nouveau cœur, un nouvel esprit, de nouveaux plaisirs, un nouveau bonheur, de nouvelles perspectives, et enfin un ciel nouveau. Ah ! Me dis-tu peut-être, je sens que j'ai besoin de toutes ces choses, mais est-il bien vrai que je puisse les obtenir ? Juge toi-même, mon frère, si tu le peux, par cette simple déclaration de l'Évangile, c'est une chose certaine et digne d'être reçue avec une entière confiance, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Il n'est pas dit, remarque-le, que ce soit là une chose digne, seulement de quelque confiance, mais d'une entière confiance, de toute la confiance dont tu es capable. Si donc tu dis en cet instant même Jésus est venu pour sauver les pécheurs, je le crois, je le sais. Tu n'as rien à craindre, le salut est à toi. Mais Jésus voudra-t-il bien me recevoir, moi, si vil et si indigne ? Demandes-tu peut-être ? Je te répondrai par une parole de mon Sauveur lui-même, je ne mettrai point dehors celui qui viendra à moi. Mais je n'ose aller à lui. Objectes-tu encore ? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, est-il écrit. As-tu soif ? Soupires-tu après le pardon ? Sens-tu le besoin que tu as d'un sauveur ? As-tu soif, te dis-je ? S'il en est ainsi, ô mon frère, voici ce que te dit Dieu. Le Saint-Esprit que celui qui voudra de l'eau vivant prenne gratuitement. Écoutez tous une bonne nouvelle. C'est pour sauver que Jésus-Christ est mort, qui croit au Fils à la vie éternelle, notre salut est un don du Dieu fort. Que Dieu vous accorde à tous la grâce d'accepter ce salut, pour l'amour de son nom. La responsabilité de l'homme, si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse pas parlé, ils n'auraient point de péché, mais, maintenant, ils n'ont point d'excuse de leur péché. Jean 15, 22. Le péché par excellence de la nation juive, celui qui mit le comble à la mesure de ses iniquités, ce fut, sans contredit, la réjection de Jésus-Christ comme Messie. La venue du Sauveur avait été clairement annoncée par les prophètes aussi les vrais Israélites qui attendaient l'accomplissement des oracles divins, comme si Méon et Anne la prophétesse n'eurent pas plutôt contemplé le petit enfant Jésus, qu'ils reconnurent en lui la consolation d'Israël et se réjouirent d'avoir vu le salut de Dieu. mais parce que Jésus-Christ ne répondit point à l'attente de la génération perverse à laquelle il fut envoyé, parce qu'il ne vint point environné de pompe et revêtu de magnificence, parce qu'il ne fut entouré ni du prestige d'un prince, ni des honneurs d'un roi de la terre, les Juifs refusèrent de le recevoir. Il monta comme un rejeton devant lui et comme une racine qui sort d'une terre sèche, il fut méprisé et on n'en fit aucun cas. Ésaïe 53, 2,3. Mais là ne s'arrêta point le péché des Juifs. Non content de nier le caractère messianique de Jésus, ils lui vouèrent une haine implacable, altérée de son sang, ils le pourchassèrent pendant toute sa vie, et leur malice diabolique ne fut pleinement assouvie que lorsque, assis au pied de la croix, ils purent suivre du regard, avec une joie féroce, les dernières convulsions et la lente agonie de leur Messie crucifié. Et bien qu'au-dessus de la croix on lut ces mots remarquables « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs », ils ne voulurent jamais reconnaître comme leur roi le Fils éternel de Dieu, c'est pourquoi aussi ils le crucifièrent, car s'ils l'eussent connu, dit saint Paul, ils n'auraient jamais crucifié le Seigneur de gloire. 1 Corinthiens 2, 8. Point. Peut-être vais-je vous surprendre, mes chers auditeurs, en vous disant que le péché des Juifs est journellement répété par les gentils. Ce que les premiers ont fait une fois, un très grand nombre des seconds le font chaque jour. N'y a-t-il pas, en effet, dans le monde, n'y a-t-il pas, même parmi ceux qui écoutent en cet instant ma voix, une foule d'âmes immortelles qui oublient, qui méconnaissent le Messie? Peut-être ne prenez-vous pas la peine de le rejeter ouvertement, puisque vous vivez dans ce que l'on appelle un pays chrétien, vous croiriez-vous déshonorer en blasphémant son nom. Peut-être même êtes-vous attaché à la saine doctrine, et admettez-vous que Jésus est à la fois fils de Dieu et fils de Marie, mais c'est là tout. Vous ne tenez aucun compte de ses droits, vous lui refusez l'honneur qui lui est dû, vous semblez le juger indigne de votre confiance. Il n'est point votre rédempteur, vous ne soupirez point après son second avènement, et vous n'espérez point être sauvé par son sang. Bien plus, comme les Juifs, vous êtes les meurtriers de Christ, car ne savez-vous pas qu'en tant que vous méprisez son évangile, vous crucifiez de nouveau le Fils de Dieu et le livrez à l'ignominie? Oui, chaque fois que vous entendez la prédication de la parole et que vous la laissez écouler, chaque fois que votre conscience est atteinte et que vous étouffez sa voix, chaque fois que vous tremblez à l'ouïe des menaces de Dieu, mais que vous vous empressez de dire avec Félix « Va-t'en pour cette fois, et quand j'en aurai le loisir, je te rappellerai. » Chaque fois, dis-je, que vous agissez ainsi, souvenez-vous, ô pécheur, que vous prenez en quelque sorte le marteau et le clou pour déchirer de nouveau la main meurtrie de mon Sauveur, et que vous rouvrez ses plaies sanglantes. Ou bien encore, chaque fois que vous outragez Christ dans la personne d'un de ses membres, chaque fois que vous insultez ses ministres, que vous entravez l'œuvre de ses serviteurs, que vous faites tort à l'Évangile, par votre mauvais exemple, ou que, par vos railleries, vous détournez une âme de la recherche de la vérité, chaque fois, dis-je, que vous commettez de telles choses, vous trempez, autant qu'il dépend de vous, dans cette grande iniquité, dans ce forfait sans égal, qui a attiré sur Israël la malédiction divine, et en punition duquel il a été condamné, lui, le peuple élu, à errer sur la surface de la terre, jusqu'au jour de la glorieuse réapparition du Messie, de ce Messie, qui apparut une première fois pour souffrir, mais qui reviendra pour régner, de ce prince de gloire que dans ce moment même juif et gentil attendait avec une égale anxiété, et qu'Israël doit reconnaître enfin comme son roi. Je me propose aujourd'hui, mes chers auditeurs, d'établir un parallèle entre vous et la nation juive, ou plutôt, je voudrais, avec l'aide de Dieu, vous faire sentir, en appliquant mon texte à vos consciences, que si vous rejetez Christ, vous commettez le même péché et vous encourez la même malédiction que le peuple déicide. Si je n'étais pas venu et que je ne le eusse pas parlé, dit Jésus-Christ, ils n'auraient point de péché, mais maintenant, ils n'ont point d'excuse de leur péché. Et d'abord nous observerons que Christ vient à vous et vous parle, tout aussi réellement qu'aux anciens juifs, par l'organe de ses ministres. Nous établirons en second lieu que la réjection du message de Christ aggrave la culpabilité de l'homme et ensuite que la prédication de l'Évangile laisse absolument sans excuse. Enfin, nous avertirons brièvement, mais solennellement, tous ceux qui méprisent le Sauveur de la condamnation effroyable qui les attend. Y Christ vient à vous et parle à vos consciences par l'organe de ses ministres tel est, ai-je dit, le premier point sur lequel je désire appeler votre attention. Lorsque, dans le désert, le peuple d'Israël méprisait Moïse et murmura contre lui, le serviteur de Dieu répondit avec douceur « Vos murmures ne sont pas contre nous, mais ils sont contre l'Éternel. » Exode 16, 8. Ce langage, mes frères, tout véritable ministre de Christ, est en droit de le tenir. Oui, nous appuyant sur l'Écriture, nous pouvons dire en toute vérité qu'il nous rejette, ne nous rejette pas nous-mêmes, mais il rejette celui qui nous a envoyés et qui méprise notre parole, méprise non point la parole d'un homme, mais celle du Dieu Tout-Puissant. Sans doute le ministre de l'Évangile n'est qu'un homme faible et pécheur. Il n'est investi d'aucun pouvoir sacerdotal, mais Dieu l'a choisi et l'a revêtu des dons du Saint-Esprit afin qu'il annonce le salut à ses frères, et lorsqu'il prêche la vérité avec la vertu qui lui vient d'en haut, le Seigneur ne dédaigne pas de l'appeler son ambassadeur, il le place comme une sentinelle sur les murs de Sion, il lui donne charge d'âme, et il déclare que celui-là se rend coupable de rébellion contre le Très-Haut qui foule aux pieds le fidèle message de son fidèle serviteur. Si je parle de mon propre chef, peu importe assurément que je sois écouté ou non, mais si je parle en ma qualité d'ambassadeur de Christ, prenez garde de ne pas mépriser ma voix. Si je viens à vous avec les raisonnements de la sagesse humaine, libre à chacun d'accepter ou de rejeter mes enseignements, mais si par la puissance de l'Esprit, je vous annonce la parole qui est descendue du ciel, vous suppliant instamment de la recevoir, souvenez-vous que si vous la rejetez, c'est au risque et péril de vos âmes, car, encore une fois, ce n'est pas nous qui parlons, mais c'est l'Esprit de l'Éternel notre Dieu qui parle par nous. Oh ! Qu'il est sacré, qu'il est solennel le ministère évangélique, considérez ce point de vue. Fils des hommes, mettez-vous bien dans l'esprit que nous ne sommes autre chose que l'écho de la voix de Dieu. Tout ministre de l'Évangile qui a véritablement reçu vocation d'en haut ne fait que transmettre à ses frères le message qu'il a reçu de son maître et n'a garde de rien changer à ce message, car il a constamment sous les yeux cette grave exhortation de l'apôtre « Prends garde à toi et à l'instruction, persévère dans ces choses, car en faisant cela, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent » 1 Timothée 4, 16. Tandis que derrière lui une voix menaçante murmure à son oreille « Si tu n'avertis pas le méchant, il mourra dans son iniquité, mais je redemanderai son sang de ta main » Ézéchiel 33, 8. Oh ! Que ne puis-je, en ce moment, tracer devant vous en caractère de feu, ce cri d'un ancien prophète « Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel !» Car en vérité je vous le dis, aussi longtemps que nous annonçons l'Évangile, pur de tout alliage, c'est comme si Dieu vous exhortait par notre ministère, et la parole que nous prêchons a autant de droit à votre respect que si l'Éternel lui-même vous parlait du sommet de Sinaï, au lieu de vous parler par l'humble intermédiaire de ses indignes serviteurs. Et maintenant recueillons-nous devant cette sérieuse vérité, et que chacun de nous se pose cette question, n'ai-je pas offensé Dieu de la manière la plus criante, en négligeant les moyens de grâce qu'il a mis à ma portée ? J'en appelle à votre conscience, que deux fois ne vous êtes-vous pas tenu éloigné de la maison de Dieu, quand Dieu lui-même y faisait entendre sa voix. Qu'eussiez-vous pensé, je vous le demande, des enfants d'Israël, si, méprisant la convocation de Jéhovah, ils eussent erré dans le désert le jour du sabbat, au lieu d'aller au pied de la sainte montagne écouter les ordres de l'Éternel. Et pourtant c'est là ce que vous avez fait. Vous avez recherché vos aises et vos plaisirs, et négligé la maison de prière. Vous avez écouté le chant de sirène de la tentation et fermé l'oreille à la voix du Très-Haut, vous avez erré dans les sentiers tortueux du monde, au lieu de vous rendre à l'invitation de l'Éternel votre Dieu, qui vous appelait dans son sanctuaire.